La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ. Chers amis, bienvenue. Bienvenue à vous tous dans ce lieu de prière. Que vous soyez habitués à y venir ou que vous veniez ce matin pour la première fois, vous êtes ici chez vous. Bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres, quelle que soit la distance qui nous sépare. Ce matin, nous avons une pensée spéciale pour nos amis de Saint-Eustache qui fêtent l'Assomption de Marie. Le 15 août, évidemment, dans notre culture, et principalement, enfin, particulièrement dans la culture française, est une date importante pour le catholicisme. Et donc, cette Assomption de Marie est fêtée aujourd'hui, un personnage biblique important que Marie, qui nous fait réfléchir ce matin à la condition féminine. Et dans la même communion, je vous invite à la prière. Éternel, nous sommes rassemblés ce matin dans la communion fraternelle pour te rendre un culte. Chacun est venu ici avec ses joies et ses soucis. Accorde nos cœurs à ta parole. Que ce temps de halte nous offre le recul et le ressourcement dont nos vies ont besoin pour être des bonnes nouvelles pour ce monde. Bénis ce temps que nous mettons à part pour toi, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est Sarah Kim qui est à l'orgue et qui nous accompagne. Merci Sarah d'être avec nous. Et je vous invite à chanter le premier spontané que vous trouverez dans les psautiers français au tout début. Et nous nous levons. Et bien sûr, ce matin, nous choisirons la louange que Marie elle-même aurait prononcée d'après les évangiles. Marie dit « Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de sa servante. Désormais, en effet, chaque génération me dira « Heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses ». Son nom est sacré et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, envoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance, pour toujours. Chantons notre louange avec le psaume 47, 1, 2 et 3, dans le psautier. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons ce qui nous est dit dans les Écritures de la volonté de Dieu. Et c'est dans l'Épître aux Galates que Paul dit « Vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous nous présentons devant Dieu et ce matin je partagerai avec vous cette prière adressée à toutes les tisserandes du monde par le Conseil œcuménique des Églises. Dieu est assise et pleure. La merveilleuse tapisserie de la création qu'elle avait tissée avec tant de joie est mutilée, déchirée en lambeaux, réduite en chiffon, sa beauté saccagée par la violence. Dieu est assise en pleurant. Mais voyez, elle rassemble les morceaux pour tisser à nouveau. Elle rassemble les lambeaux de nos tristesses, les peines, les larmes, les frustrations causée par la cruauté, l'écrasement, l'ignorance, le viol, les tueries. Elle rassemble les chiffons du dur travail, des essais de plaidoyer, des initiatives pour la paix, des protestations contre l'injustice, toutes ces choses qui semblent petites et faibles, les mots et les actions offertes en sacrifice, dans l'espérance, la foi et l'amour. Et voyez, elle retisse tout cela avec les fils d'or de l'allégresse en une nouvelle tapisserie, une création encore plus riche, encore plus belle que ne l'était l'ancienne. Dieu est assise, tissant patiemment avec persistance et un sourire qui rayonne comme un arc-en-ciel sur son visage baigné de larmes. Et elle nous invite non seulement à continuer à lui offrir les lambeaux et les chiffons de notre souffrance et de notre travail, mais bien plus que cela, à prendre place à ses côtés, devant le métier de l'allégresse et à tisser avec elle la tapisserie de la création nouvelle. Thank you. Confessons ensemble notre foi. Aujourd'hui, je crois en toi, source de vie, qui enfante le monde et te manifeste de diverses manières, au cœur de nos expériences de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, je crois en toi, parole de vie, qui te dit dans nos quêtes de sens, nos recherches spirituelles, nos remises en question, et dans les non-savoirs qui habitent les femmes, les hommes et les enfants. Aujourd'hui, je crois en toi, effusion de vie, qui épouse nos désirs de mutualité, de réciprocité, de communion dans nos engagements de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, je crois en toi, qui suscite une ecclésia où femmes, hommes et enfants reçoivent, vivent et célèbrent librement leur foi. Aujourd'hui, je crois en toi, qui accueille le don suprême de chaque femme, homme et enfant dans la plénitude de ta vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, j'ai choisi de relire avec vous quelque chose qu'on lit plutôt dans le temps de l'Avent d'habitude. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la Vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 218, les strophes 1 et 2, dans le louange et prière. Prions ensemble. Éternel, ouvre nos cœurs à ta parole, celle qui transparaît à travers les mots anciens de la Bible, ceux qui ont été reçus, ces mots anciens, par d'autres qui ont cru avant nous, permet qu'ils soient aujourd'hui compréhensibles pour nous, dans notre actualité, dans notre vie d'aujourd'hui. Éternel, accompagne nos temps et traverse avec nous les défis de notre société. Amen. En ce jour où nos frères et sœurs catholiques fêtent l'Assomption de la Vierge, ce dogme tiré de plusieurs récits apocryphes, c'est-à-dire qui sont de tradition chrétienne mais ne figurent pas parmi les livres retenus dans les canons bibliques, il semblait une bonne chose de pouvoir parler de Marie. Ces récits apocryphes donc racontent comment Marie a été enlevée au ciel, soit vivante, soit morte, selon les récits. L'Église catholique, très soucieuse de garder Marie loin de la corruption du tombeau afin d'en faire une femme hors du commun des mortels, puisque mère de Dieu, définit le dogme de l'Assomption seulement en 1950. C'est un dogme donc récent, qui arrive bien après les traditions populaires qui ont fêté cet enlèvement angélique depuis de très nombreuses années, depuis de très nombreux siècles. Les fidèles n'avaient pas attendu les conciles pour imaginer la Mère de Dieu d'une autre nature que celle des femmes d'ici-bas. Dans le texte que nous avons lu dans l'Évangile, bien canonique, selon Luc donc, nous retrouvons tous les mots qui ont contribué, pour une part, au mot MAUX de la condition féminine jusqu'à ce jour. Pourtant, l'histoire est belle à lire comme ça. Marie est vierge, et sa virginité est montrée comme une caractéristique déterminante pour cette jeune fille. Elle se définit ainsi. En tout cas, dans le texte, elle est définie ainsi. Marie est fiancée à Joseph, ce qui en soi n'est pas un mal, mais on parle de l'ascendance de Joseph comme une caractéristique qui le relie, lui, à la lignée des rois. Marie n'a qu'à bien se tenir si elle ne veut pas souiller la réputation de son futur mari. Elle existe donc au deuxième rang derrière un homme qui est plus important qu'elle. Car on ne dit pas à elle son ascendance, son origine. Marie est enjointe par l'ange qui fait irruption dans son intérieur, pour ne pas dire dans son intimité, de ne pas avoir peur, alors qu'elle demande seulement ce qu'une telle salutation pouvait bien vouloir dire. Marie apparaît donc d'emblée comme une victime potentielle d'un personnage qui entre chez elle et qui doit la rassurer pour qu'elle l'écoute. Marie apprend qu'elle va être enceinte et que c'est cet état futur qui manifeste qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce qui veut dire que la grossesse, même non désirée, puisqu'elle l'apprend alors qu'elle-même ne le souhaite pas forcément, est une grâce de Dieu. La femme est donc considérée dans ce texte comme pleine de grâce lorsqu'elle porte un enfant. Son existence est de nouveau mise cette fois-ci à un rang plus loin encore, au troisième rang, car elle est d'abord derrière son fiancé, puis derrière l'enfant qu'elle va porter, et à qui l'on promet un destin exceptionnel, puisqu'il sera fils du Très-Haut. Marie doit se tenir dans la passivité, puisque c'est l'Esprit-Saint qui la couvrira de son ombre et qu'elle n'aura rien d'autre à faire que subir. Alors que Marie pose la question « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» l'ange lui répond qu'elle n'a pas à comprendre ce qui lui arrive. Elle n'est pas un sujet qui pense, mais l'outil de la providence divine. Marie a de surcroît l'exemple de sa parente Élisabeth, qui cumule tout ce qui disqualifie une femme, c'est-à-dire la stérilité et la vieillesse. Autre image de femme assez caricaturale. Élisabeth est elle aussi le jouet de la providence divine, puisqu'elle doit servir de motif de l'arrivée du Messie en montrant que, lorsque l'enfant Jésus paraît, les femmes ménopausées et stériles accouchent de fils extraordinaires. Et en apothéose de l'éternel féminin dans ce passage de l'Évangile de Luc, Marie répond « Je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. » Et bien sûr, c'est à ce moment-là que l'ange la quitte. Pauvre Marie, mes pauvres femmes à sa suite, qui sont encore victimes de ces représentations. Même quand les théologiens trouvent des justifications pour nier leur caractère sexiste. Selon certains d'entre eux, Marie serait très libre parce qu'elle se soumettrait d'elle-même. Ou encore, elle serait l'image glorifiée de la femme qui est porteuse de Dieu lui-même. La belle affaire. La réalité de la théologie mariale, c'est que les penseurs qui ont cherché à systématiser la divinité de Jésus, réfléchissant à son origine, et au ventre qui avait dû le porter pour qu'il soit humain, lui, le Fils de Dieu, ont trouvé très judicieux de faire de sa mère une sorte de déesse, qui par ses caractéristiques apparaissait comme l'antithèse d'une autre femme, celle des origines, Ève. Ève, tentatrice, obéissant au diable et non à l'ange de Dieu, faisant déchoir l'homme d'où elle avait été tirée pourtant. Elle était à l'origine de tous les maux humains, alors que Marie rassemblait toutes les qualités requises pour être l'objet de vénération d'une femme imaginaire, sans volonté propre, obéissant à Dieu pour réaliser les projets des messieurs qui l'entouraient. C'est sans doute pour cela qu'il y a tant de dogmes autour du personnage de Marie, mère de Jésus, et que le plus ancien, celui que le concile d'Éphèse imagina au 5e siècle, fut celui qui installa Marie à la place unique de mère de Dieu, Théotokos en grec. Dans une ville païenne où l'on vénérait toujours une déesse mère aux multiples mamelles, Artémis Ephésia, la chose était politiquement utile de présenter Marie de la sorte. Et comme on se demandait comment une vierge allait rester vierge pour rester vénérable aux yeux des fidèles en mal de merveilleux, on trouva très vite un autre dogme, celui de la virginité perpétuelle. Cela date du Concile de Latran, 7e siècle. Vierge avant l'enfantement, pendant l'enfantement et après l'enfantement. Tant pis pour les frères et sœurs de Jésus dont parlent les évangiles. Eux qui étaient nés de la même mère, restés vierges selon le dogme, n'auraient pas le privilège d'être considérés comme des dieux et des déesses. Ce dogme, comme celui de l'Assomption, est inspiré lui aussi de récits apocryphes, où l'on va vérifier la virginité de la Vierge. Si l'on ajoute le dogme de l'Immaculée Conception, qui date, lui, de 1854, à tous ces dogmes concernant Marie, on s'aperçoit qu'il faut qu'elle soit là, dans sa chair, pour que l'homme Jésus trouve son origine terrestre et que sa chair ne soit pas remise en question, sans pour autant qu'elle soit une femme vraiment humaine, puisqu'il faut un miracle pour assurer le statut de Dieu à son Fils. Comment voulez-vous qu'en se référant à une telle représentation féminine, les filles des siècles qui suivirent trouvent leur place dans la société autrement qu'auprès des hommes, à leur service et parfois même à leur merci, pour leur assurer leur descendance. Cette représentation miraculeuse de Marie a eu une autre conséquence absolument liée à la première. Toutes les femmes qui étaient humaines et qui ne cherchaient pas à ressembler à la Marie miraculeuse devenaient par contraste des Èves en puissance. Donc, il fallait réprimer leur penchant pour le péché. La divinisation de Marie démonise les autres femmes. On pourra se consoler en remarquant que chez les protestants, les choses ne marchent pas ainsi, puisqu'il n'y a pas dans notre confession de culte marial. Si seulement les choses étaient aussi simples. Il ne s'agit pas là d'une question confessionnelle, mais vraiment d'une structure patriarcale qui organise le monde qui nous entoure et reproduit sans cesse le schéma qui est le même que celui qui donna l'idée à l'auteur de l'évangile de Luc de faire de Marie une mère qui certes sait comment on fait les enfants, mais n'est pas assez autonome pour faire sa propre histoire, pour faire de cette histoire une bonne nouvelle pour le monde, elle-même. Les textes bibliques, dans leur immense majorité, sont le reflet des représentations sexistes des cultures qui les ont vues naître. À la pointe des propos machistes, on trouve dans l'épître aux Corinthiens que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, versets 34 à 35. On pourra toujours essayer de sauver l'honneur de Paul sur ce coup-là, en notant que ce passage n'est pas dans tous les manuscrits, et notamment qu'il n'est pas dans le Codex Vaticanus. Il n'empêche qu'il est dans toutes les Bibles et qu'il inspire encore aujourd'hui des hommes qui pensent qu'une femme ne devrait pas prendre part à la parole publique, que ce soit dans les assemblées d'église et aussi ailleurs, malheureusement. Agnès et moi, ma consœur, pasteur comme moi ici, Agnès et moi avons quelques exemples qui montrent que deux femmes pasteurs dans une église déclenchent parfois des réactions étonnantes au XXIe siècle. Qualifiées il y a peu de femelles, de bizarreries et de bizarreries protestantes, et pour ma part soupçonnée de faire écrire mes prédications par mon propre mari, qui, il faut bien dire, est quand même bien plus qualifié que moi pour écrire des discours, parce qu'il y a plus longtemps que moi qu'il a une âme. Alors vous voyez que dans ces perles, et il y en a beaucoup d'autres malheureusement qu'on ne saurait dire ici tellement il est difficile de les redonner en public, vous voyez quand même que quand bien même les institutions permettent aux femmes de prendre leur juste place, au nom de leurs compétences, de leur savoir-être, de leur vocation, les stéréotypes ont la vie dure. Et je ne vous parle pas des remarques sur la tenue vestimentaire ou sur l'apparence physique qu'on se permet avec une femme, alors qu'il y a fort à parier qu'on n'oserait pas si facilement le faire avec un homme. Évidemment, je vous parle ici de réactions qui ne sont pas représentatives de toute une assemblée, loin s'en faut. Et les faits parlent d'eux-mêmes dans ce sens. Nous sommes quand même deux femmes pasteurs ici à l'oratoire et heureuses d'être ici, avec des paroissiens qui nous reconnaissent tout à fait notre place. Ce sexisme ordinaire, qui ressurgit comme ça de temps en temps, se porte aussi sur les hommes. Combien de réflexions font d'une activité traditionnellement réservée aux femmes et accomplie par un homme un objet de surprise et souvent d'admiration. Un homme a fait la vaisselle, extraordinaire. Il est allé nettoyer le sol dans l'église ou bien dans une fête paroissiale, magnifique. Comme si un homme accomplissant une tâche traditionnellement réservée aux femmes était héroïque de s'abaisser au niveau de sa servante. Dans un article paru dans un magazine féminin, qu'on ne pourrait pas forcément mettre dans une grande bibliothèque d'érudits, puisqu'il s'agit de, je crois, glamour ou quelque chose comme ça, Barack Obama, observant le problème du sexisme, insistait sur l'éducation en notant que nous devons mettre fin aux limites entre hommes et femmes, disait-il. Nous devons continuer à changer notre façon d'apprendre à nos filles à être sages et à nos garçons à être sûrs d'eux. Notre façon de critiquer nos filles lorsqu'elles s'affirment et nos garçons lorsqu'ils versent une larme. Nous devons continuer à changer notre façon de punir les femmes pour leur sexualité et de récompenser les hommes pour la leur. La société doit changer en cessant de féliciter un homme qui change une couche ou de stigmatiser les pères au foyer et les mères au travail. Combattre le sexisme, c'est aussi la responsabilité des hommes. Il est temps dans notre société et dans notre Église, et beaucoup d'hommes et de femmes l'ont d'ores et déjà compris, j'en suis certaine, que les hommes s'emparent de la question du sexisme avec les femmes et ne cherchent ni à les sauver, ni à les défendre, mais qu'ils sortent avec elles de ces schémas qui ont fait leur temps et qui ne sont acceptables ni pour les femmes, ni pour les hommes. Il est temps que Marie et Joseph se libèrent ensemble des rôles qui leur sont assignés et déménagent de la crèche où ils étaient figés. Demandons-nous quel était l'intérêt de ceux qui les ont installés dans ces rôles. Marie Graton, professeure associée à la faculté de théologie, d'éthique et de philosophie de l'université de Sherbrooke à Québec, prêtait à Marie, elle n'est plus de ce monde, Cette prière intitulée « En attendant l'enfant » et je vous la partage ce matin car elle ressemble à une expérience de pensée que nous pourrions faire nôtre. Dieu fidèle, toi qui, pour créer ton peuple et assurer sa marche dans l'histoire, suscita des femmes de foi et de courage comme Sarah, Myriam, Ruth, Esther. Toi qui me fis naître d'âne, qu'on croyait stérile, accorde-moi une heureuse grossesse et fais surgir de moi une femme forte à qui j'apprendrai à célébrer ton nom et à témoigner dans tous ses gestes de la constance et de la profondeur de ton amour. Et s'il te plaisait de me confier plutôt un fils, donne-moi de lui former un cœur qui sache rendre visible ta miséricorde et ta tendresse, comme je m'efforce moi-même de le faire au jour le jour. Amen. Et si Marie avait eu un fils? Je vous invite à chanter le cantique 250, les strophes 1, 2 et 3.
Mmh.
C'est maintenant le moment de quelques annonces et c'est notre présidente du conseil presbytéral, Aurore, qui va les partager avec nous.
Bonjour à tous. Béatrice, est-ce un lapsus? Tu as terminé par « Et si Jésus avait un fils ?»
Ah, j'ai dit ça?
Oui.
C'est un lapsus, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire,
alors,
ça veut dire que le sexisme
évidemment,
est toujours là.
Et si, voilà, bon, voilà, vous avez compris.
Donc vous avez tout compris, il faut
mais
continuer.
En père de famille, il aurait été pas mal aussi.
Voilà, mais il faut donc se souvenir que vous voyez, il y a encore un peu de pression.
J'ai
forte.
Juste sauté une génération, mais la question c'était voilà. Marie.
Voilà. Donc, merci
infiniment. Si elle avait eu une fille.
Voilà, donc c'est... Et si Marie avait eu une fille ? Voilà, mais on a bien compris que dans notre génération, ça n'aurait rien changé, et il faut considérer que ça n'aurait rien changé.
J'espère.
Bonjour à tous, merci d'être là. Quelques petites annonces. D'abord, inscrivez-vous, si ça n'est pas encore le cas, à la newsletter. Tous les vendredis, nous envoyons un email avec le programme de l'Oratoire du Louvre. Donc si les annonces pouvaient éviter de répéter ce que nous écrivons tous les vendredis, ça serait merveilleux. À retenir ce jeudi pause spirituelle à 12h30 avec Béatrice ici même. Également samedi, Béatrice vous emmène à Château-Thierry, si vous le souhaitez. Passez la journée avec elle, départ à 9h50 de la gare de l'Est. Mais surtout, inscrivez-vous d'abord à Accueil, ou auprès de Béatrice, de moi-même, de notre trésorière, parce que notre paroissienne Christiane Guttinger va préparer un buffet. Et donc c'est important de savoir combien nous sommes. Donc inscrivez-vous si vous désirez venir ce samedi à Château-Thierry avec Béatrice. C'est, pour l'avoir fait en juillet avec Agnès, c'est vraiment passionnant et très sympathique et c'est vraiment une occasion de se rencontrer. Également, dimanche prochain, le partage de la scène. Donc scène dimanche prochain. Et enfin, et par rapport à ta prédication... sur la façon d'interpréter la Bible et l'importance pour chacun d'entre nous et surtout la nouvelle génération de devenir un lecteur autonome et critique de la Bible. Sachez que les inscriptions à l'école du dimanche, l'école biblique, est ouverte. Donc si vous avez dans votre entourage des enfants, n'hésitez pas à prendre le petit programme qui se trouve sur la table avec les bulletins d'inscription. Tout le monde est bienvenu, l'inscription est gratuite. Et vraiment, faire partie de l'école du dimanche, de l'Oratoire du Louvre, ça formera des générations de libéraux et des couples ou non-couples puissants dans leur humanité. Voilà, merci beaucoup.
Merci. C'est maintenant le moment de l'offrande. Donnez avec le cœur joyeux, car vous avez reçu beaucoup du Seigneur. Je vous invite à partager cette offrande avec aussi le panier digital si certains en ont besoin. Merci.
Thank you.
Je vous invite à la prière. Éternel Dieu, aujourd'hui je rajouterai un « e » au mot qui tente de te dire. Une fois n'est pas coutume. Quelle importance ! C'est que dans ce petit « e » se concentre l'histoire de l'inégalité entre les deux parts du genre humain. L'histoire d'une violence, l'histoire d'une discrimination. Alors aujourd'hui nous prions, femmes et hommes rassemblés dans la même confiance devant toi, toi qui n'es sans doute ni homme ni femme, mais dont on nous a dit ton amour et ta solidarité avec ceux qui souffrent de l'inégalité et de la violence. Au 1er juillet de cette année, 48 femmes étaient tuées sous les coups de leurs conjoints déjà. Qu'en sera-t-il en décembre ? Aide-nous à désamorcer cette violence dans les plus petits indices que nous percevons, dans les propos ordinaires comme dans les situations dramatiques. Dans notre pays, 87% des victimes d'actes sexistes sont des femmes et 91% des mises en cause sont des hommes. Aide-nous à lutter par l'éducation, mais aussi par un courage de la parole contre l'hypocrisie, contre les stéréotypes qui parcourent nos sociétés, qui façonnent nos esprits, qui remplissent nos médias, nos discours politiques et parfois aussi les discours scientifiques. Dans notre pays, les femmes qui travaillent gagnent en moyenne 15,5% de moins que les hommes, ce qui revient à 39 jours de travail gratuit par an. À défaut de leur donner 39 jours de vacances bien méritées pour la traditionnelle double journée, aide-nous à lutter pour le droit de toutes les femmes dans notre société. Et ensemble, en t'imaginant pour une fois, comme une mère qui regarde ses fils et ses filles, nous te prions. Notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes sœurs, mes frères, femmes et hommes, allez d'un pas égal dans la vie qui vous est donnée à tous. Vous êtes bénis. Amen.